Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Mais la neige se déposera alors sur la glace. Pas un instant, chacun prend sa et dit son
Actes Sud Audio présente Nord Sentinelle, conte de l'indigène et du voyageur, de Jérôme Ferrari, lu par Pierre-François Garel. Pour Caroline, à nouveau. Le chef fanatique et son peuple barbare menaçaient de mort l'infidèle qui s'aventurait dans leurs murs, quelques noirs merlins ayant, raconte-t-on, vu dans les premiers pas des Francs, le déclin et la chute. Richard F. Burton, Premier pas en Afrique de l'Est. Ton corps, de myrrhe et de jasmin. On raconte encore que, dans l'après-midi du 3 janvier 1855, malgré la vénérable prophétie annonçant la ruine de la ville sainte, peu de temps après qu'un infidèle l'aurait impunément souillé de sa présence, le sultan Ahmad ibn Abu Bakr consentit à ce que le capitaine Richard Francis Burton franchît les portes inviolées de sa cité de Harar. Il lui accorda une hospitalité soupçonneuse de 10 jours avant de le laisser repartir sain et sauf. Privilège dont aucun Européen n'avait joui jusqu'alors. S'il avait pu savoir que Harar tomberait en 1875, alors que lui-même était mort de consomption 10 ans plus tôt dans l'amertume et le regret, Ahmad ibn Abu Bakr n'aurait sans doute pas commis l'erreur fatale d'épargner le capitaine Burton. Et il aurait eu raison. Nul besoin de prophétie pour savoir que le premier voyageur apporte toujours avec lui d'innombrables calamités. Peu importe qu'il fût une brute sanguinaire, un aventurier cupide, un soudard conquérant, un suppliant en larmes, ou un homme comme le capitaine Burton dont la soif de connaissance consumait le cœur dans des proportions si monstrueuses qu'elle en devenait un vice, peu importe qu'il cherchât la guerre ou le repos, la conquête ou la rédemption, le premier qui pose le pied sur le rivage, fut-il animé des intentions les plus pacifiques et les plus louables, fut-il un saint, fut-il le sauveur du monde en personne, il faudrait le tuer, lui et tous ceux qui l'accompagnent sans distinction d'âge ou de sexe, les vieillards et les femmes, les hypothétiques enfants, toute la horde angélique des chérubins. En suivant cette simple règle, l'humanité se serait évitée au prix d'un crime minuscule, une atroce et interminable litanie de massacres, d'épidémies, d'asservissements et de mutilations, ainsi que quelques autres abjections mineures, au rang desquelles il faut compter la chanson coloniale, les missions évangéliques et bien évidemment la pratique intensive du tourisme. Il a pu m'arriver, je ne le nie pas, de défendre en plus d'une occasion cette intéressante théorie avec un enthousiasme quelque peu excessif, le plus souvent au cours de repas familiaux trop arrosés. Mais il aurait dû être clair aux yeux de tous qu'elle relevait davantage de la spéculation contrefactuelle ou de l'uchronie que du programme politique, et qu'elle était, en dépit de sa radicalité, parfaitement fondée aussi bien du point de vue de l'histoire que de celui de la logique. Certes, la mort du capitaine Burton, en nous privant des premiers pas en Afrique de l'Est et de sa traduction du livre des Mille et Une Nuits, n'aurait sans doute pas bouleversé le destin de l'Abyssinie. Mais personne ne peut contester que si quelque obscur indien caraïbe avait, dans un éclair de sagacité salvatrice, fracassé le crâne de Christophe Colomb au lieu de l'écouter avec une curiosité fatale débiter ses fadaises en agitant crucifix et breloques, il devrait être tenu pour un héros. Et le bienfaiteur à jamais ignoré du genre humain.